7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La question du jour. Le groupe LVMH a acté la semaine dernière l'achat du grand joaillier américain Tiffany, un bijou d'une valeur de 16 milliards de dollars pour le géant français qui laisse penser qu'il ne craint pas pour son avenir alors que pointe une sévère crise économique. Les ventes du groupe qui détient Gucci ou Yves Saint Laurent ont à peine baissé au cours des trois derniers mois. Chez Hermès, elles ont même progressé de 7%. D'aucuns seraient tentés de croire que le luxe ne connaît pas la crise. Est-ce bien le cas? Bonjour Isabelle Chabot.
Bonjour.
Vous êtes directrice du MSC Fashion Design et Luxury Management à Grenoble, école de management. Qu'en est-il sur le marché du luxe? Parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi les ventes de la plupart de ces entreprises augmentent alors qu'il y a des difficultés pour se déplacer, moins de tourisme, plus de duty-free.
Le luxe est effectivement moins touché que les autres secteurs, même s'il n'est pas épargné. Il faut quand même être cohérent avec ce qui se passe. Il est en recul à peu près de 21% sur les 9 mois cumulés pour LVMH et Kering, mais de seulement 14% pour Hermès. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que sur le trimestre qui clôt à fin septembre 2020, les ventes repartent. Pour Hermès en tout cas, et la baisse est bien limitée chez LVMH et Kering. En fait, ces secteurs sont plus résilients, ils ont su s'adapter relativement bien, et il faut le reconnaître, ils sont quand même portés par la Chine, qui a connu une demande très soutenue, que ce soit en ligne ou en magasin.
Ça veut dire que ces chiffres que vous annoncez, qui sont encore une fois assez étonnants, Isabelle Chabot, ils sont le fait du marché chinois?
Alors essentiellement, effectivement, l'Europe et les États-Unis sont en baisse, la France très en baisse. Et par contre, en Chine, on voit vraiment des ventes très 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 fortes, sachant que la Chine représente plus de 30%, entre 30 et 40% selon les maisons, et ont parfois connu des progressions à deux chiffres sur ce dernier trimestre clos le 30 septembre, comme je le disais. Je tenais juste à préciser, vous avez indiqué que Gucci et Saint Laurent faisaient partie de LVMH, ce n'est pas le cas. Gucci et Saint Laurent font partie de Kering. LVMH détient par contre Louis Vuitton et Christian Dior, qui sont les deux marques qui tirent le groupe vers le haut. Donc effectivement, ce sont des groupes très, pour la LVMH en tout cas, des groupes extrêmement variés. Donc tout dépend des marques. Certaines maisons vont pouvoir tirer la croissance, d'autres sont plus affectées. Tout dépend des activités. Vous mentionnez le Duty Free Shop. Effectivement, les Duty Free Shops sont très impactés puisqu'il n'y a plus de voyages. Les aéroports sont fermés quasiment, presque plus de touristes. À l'inverse, Louis Vuitton et Dior chez LVMH tirent la performance vers les hauts et ont permis de limiter cette baisse sur le dernier trimestre clos 30 septembre. Chez Hermès, ils ont quasiment qu'une marque, et c'est vraiment le luxe intemporel, les efforts que Hermès mène depuis des années, et le fait qu'ils s'aient investi énormément dans le digital avec leur propre plateforme de e-commerce, que ce soit en Chine ou ailleurs, qui ont permis de réaliser de très bonnes ventes.
Alors justement, je voulais savoir quelle était la part des ventes sur Internet, parce que l'on peut imaginer que l'absence de tourisme, de déplacement, le fait que les grands magasins en Europe, particulièrement à Paris, soient aujourd'hui, bon, avec le confinement fermé, mais auparavant largement moins fréquentés qu'auparavant, est-ce que les consommateurs se sont transportés vers les ventes en ligne?
Tout à fait, c'est tout à fait exact. Avec la fermeture des magasins, donc effectivement, il a fallu trouver des relais de croissance. Les maisons ne communiquent pas malheureusement sur leurs chiffres en ligne, mais on peut penser que la Covid-19 a vraiment accéléré la transition digitale et qu'on doit être pas loin de 20% peut-être dans chacune des maisons. Encore une fois, tout dépend des marques, mais peut-être plus sur certains lieux géographiques, encore une fois, comme la Chine. Il faut savoir aussi que ces maisons attirent de plus en plus de milléniums, comme on les appelle, et qui sont des personnes qui sont très connectées, qui ont l'habitude d'acheter par leur smartphone ou sur Internet. Et du coup, ne pouvant aussi voyager pour certains, ont quand même réalisé des achats. Donc c'est vrai que ça a été encore plus marqué en Chine, où 60% de la clientèle entre 18 et 30 ans et est une clientèle, comme je le disais, extrêmement connectée. Du coup, frustrés peut-être de ne pouvoir aller en magasin, ils ont acheté beaucoup en ligne et des maisons telles que Hermès a vu ses ventes bondir de plus de 100% en ligne en Chine.
Bon, c'est une situation.
Ça a accéléré la transition.
Oui, pardon. Je vous en prie, allez-y Isabelle Chabou.
Non, donc effectivement, ces grandes maisons LVMH, Kering, Hermès, qui ont leur propre plateforme digitale, ont pu justement rattraper une grande partie des ventes. Néanmoins, dès que les magasins ont réouvert, on a vu en Chine un phénomène qui ne s'est d'ailleurs pas reproduit ailleurs, ce qu'on appelle le revenge spending, où les clients se jettent dans les magasins pour acheter. Hermès, par exemple, quand Hermès a réouvert son magasin de Guangzhou, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 millions de dollars en une journée parce que les Chinois sont tout de suite allés en magasin. Donc il faut quand même dire que ces maisons gardent une stratégie qu'on appelle d'omnicanalité, c'est-à-dire avoir à la fois des magasins physiques et en ligne. Et comme le virus s'est propagé à une vitesse différente au moment où la Chine est repartie, on a eu les magasins fermés aux États-Unis, en Europe, et à l'inverse, après, quand ça a réouvert, on a aussi eu un phénomène où on a pu réaliser quand même quelques ventes quand certains magasins étaient fermés sur une zone géographique, mais ouverts sur une autre.
Bon, c'est évidemment une situation qui peut apparaître comme étant moralement tout à fait discutable à une époque où une partie des personnes ont du mal à joindre les deux bouts et de l'autre côté, on le voit avec le luxe, Isabelle Chabou, il y a de plus en plus de reprises dans ce secteur-là. Est-ce que c'est tout simplement synonyme des inégalités croissantes avec la crise du Covid ?
Alors, je pense que c'est une conclusion un peu rapide. Moi, je pense aussi que ce sont des maisons qui sont très bien gérées, qui sont diversifiées, qui offrent des produits nombreux dans différentes activités, donc diversifiées géographiquement et en termes de produits, et du coup qui attirent des clientèles quand même assez variées. Alors effectivement, vous avez des produits très chers, mais vous avez des parfums. Certaines personnes se permettront de s'offrir un parfum. C'est un achat plaisir. Il ne faut pas oublier que le luxe, ça fait rêver. Et je pense qu'il faut aussi dire que c'est un savoir-faire qui est vendu, que les personnes qui achètent ces produits achètent sans doute quelque chose de durable, qui est vraiment un objet, oui, qu'ils vont garder. Et parfois aussi, je parlais des milléniums qui sont de plus en plus importants, de plus en plus de personnes achètent parce qu'elles pensent qu'il y a une valeur de revente. Donc aujourd'hui, ils se disent, j'achète ce produit, je pourrais peut-être le revendre dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et du coup, je pense qu'effectivement, ça c'est peut-être une clientèle relativement privilégiée. Néanmoins, on voit une croissance importante des millennials et des personnes des millennials qui préfèrent peut-être acheter moins, mais des produits plus durables qui vont garder pendant des années et du coup, peut-être se restreindre sur d'autres achats pour privilégier certains qui sont effectivement des achats de plaisir.
En conclusion, Isabelle Chabou, est-ce que ça signifie que les changements de mode de consommation attendus pour l'après-crise, ces changements n'interviendront pas ?
Par rapport au luxe, vous voulez dire ?
Notamment, puisque le luxe peut être considéré comme étant vraiment la quintessence de la consommation ostentatoire et non pas de la consommation durable.
Alors, si je peux me permettre, justement, il y a une très forte tendance à aller vers un luxe plus durable. Donc, les maisons sont en train de travailler sur que ce soit sur des efforts de recyclage, de upcycling, comme on dit aussi, de leurs produits. Aussi, trouver des procédés pour utiliser des matières qui vont durer encore plus longtemps et vendre aussi des produits, ce qu'on appelle de seconde main. Donc, je pense qu'il y a une vraie transformation dans les maisons de luxe. Et pour moi, acheter un produit, par exemple, en cuir qui va durer 20 ans, c'est certainement plus durable que d'acheter un produit alternatif que vous allez peut-être jeter au bout de 3 ou 4 ans. Donc, je pense qu'il y a quand même un vrai changement de mentalité et de la part du consommateur et de la part des maisons de luxe qui investissent vraiment, vraiment cet aspect du luxe durable.
Merci beaucoup, Isabelle Chabou, 7h23 sur France Culture.